Le 18-20, comme chaque soir, c'est tout ce que vous devez savoir sur l'actualité de cette journée du jeudi 1er juillet avec le journal d'Anaïs Feugat. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel ce soir commence avec le gouvernement qui a 9 mois pour revoir sa copie sur le changement climatique.
Jugée nettement insuffisante pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre, décision historique du Conseil d'État qui jette ainsi un pavé dans la mare de la campagne présidentielle. Les deux doses de vaccins contre le Covid-19 semblent protéger contre le variant Delta, nouvelle rassurante de l'Agence européenne du médicament. Alors que dans les maisons de retraite, le confinement des personnes âgées continue, alerte famille et professionnels du secteur. Plus de 2 heures de conférence de presse fleuve, Jean-Luc Mélenchon déroule sa stratégie pour les prochains mois. Fini la France insoumise, désormais l'Union populaire pour partir à l'assaut de la présidentielle. Le Tour de France est de 2 pour Cavendish qui emporte l'étape Tour Châteauroux au sprint. Van der Poel toujours en jaune.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir au Chili, qui installe son assemblée constituante ce dimanche. Sa révolution, sa nouvelle ère. L'assemblée qui va rédiger une nouvelle constitution dans l'année qui vient est faite en majorité de sociétés civiles, de minorités indigènes aussi. Elle est paritaire. Le travail à venir est long, il est compliqué. Cependant, on vous expliquera pourquoi dans un instant. À 19h20, c'est le téléphone sonne. Est-ce que le pass sanitaire européen est obligatoire pour passer une frontière? Qu'est-ce qu'il y a dans le QR code? Qui va vérifier ce pass? Combien de temps est-il valable? Est-ce qu'il est réservé aux personnes vaccinées? Il entre en vigueur ce jeudi, ce pass sanitaire européen. C'est le moment de poser toutes les questions que vous voulez à Cédric O, secrétaire d'État au numérique, qui est avec nous au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un ultimatum.
Avec date butoir le 31 mars. Ultimatum que la justice impose à l'État français pour respecter ses engagements contre le changement climatique. Décision inédite ce matin du Conseil d'État. Il ordonne au Premier ministre de prendre toutes les mesures utiles pour infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre. Décision historique de la plus haute juridiction administrative française qui avait été saisie par la commune de Grande-Synthe dans le Nord qui s'estime menacée par la montée des eaux. Bonsoir Célia Kiret.
Bonsoir Anaïs.
Alors comment réagit ce soir la ministre de l'Environnement?
Alors c'est un coup dur indéniable pour le gouvernement, mais Barbara Pompili se réjouit que la justice administrative s'empare de ces sujets et elle s'engage à agir dans les prochains mois.
Là, ce que nous demande le Conseil d'État, c'est d'appliquer, d'aller au bout de ce que nous avons mis en œuvre, notamment la loi climat, mais aussi toutes les lois précédentes. Donc de mettre en place les décrets et de faire en sorte que ce qu'on doit faire, on le fera. Je peux vous garantir que je veillerai personnellement à ce que tout ce qu'on doit mettre en œuvre, on le mette en œuvre.
Voilà pour le discours politique, sauf que la loi climat qui a été détricotée au Sénat va revenir affaiblie à l'Assemblée et seule elle ne suffira pas. Le 31 mars, à la veille de la présidentielle, le juge suprême regardera si l'État a vraiment agi. C'est presque mission impossible pour le gouvernement dans un délai si court, estime l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. C'est elle qui défend le maire de Grande-Synthe.
Le Conseil d'État dit pas à l'État, vous devez prendre telle ou telle mesure. Il lui crée une obligation de résultat. Vous avez 9 mois pour le faire et si vous ne le faites pas, ben la suite logique, c'est l'astreinte. Donc ça veut dire que ce sujet du climat va devenir un sujet central de la présidentielle. Il est incontournable. Quel que soit le gouvernement, quel que soit le nouveau président de la République, il n'y coupera pas. L'Union européenne a des moyens de sanctionner les États qui ne font pas ce qu'ils ont à faire. Si le 30 mars, ils n'ont rien fait, on retournera devant le Conseil d'État pour qu'il prononce une astreinte. Alors effectivement, ce sera pour le prochain gouvernement l'astreinte, qui payera la défaillance du précédent.
Et donc ce dossier sera à la fois au cœur de la campagne électorale et tout en haut de la pile sur le bureau du prochain ministre de l'Environnement.
Merci Célia Kiret. De l'autre côté de la planète, un avant-goût du réchauffement climatique, des centaines de morts subites, des hospitalisations en hausse et maintenant des feux de forêt. Scénario catastrophe au Canada et dans l'ouest des États-Unis, touché par une canicule sans précédent. 46 degrés à Portland. Au Canada, on a frôlé les 50 degrés. Des pics à 50 degrés, c'est ce qu'on nous prévoit dans un futur pas très éloigné en France. En Grèce, cela fait 10 jours maintenant qu'il fait une chaleur étouffante, 44 degrés attendus aujourd'hui.
C'était bien la crainte des épidémiologistes.
Oui, le grand rendez-vous du football européen allait-il redonner un coup de fouet à la pandémie de Covid-19? Eh bien, alors que les cas diminuaient depuis 10 semaines consécutives en Europe, ils repartent à la hausse depuis une semaine et en particulier dans les villes qui accueillent des matchs de l'Euro, Londres, Bakou, Saint-Pétersbourg, alerte aujourd'hui l'OMS. Le ministre allemand de l'Intérieur s'en mêle, furieux de la décision de l'UEFA d'autoriser des matchs en jauge pleine, 60 000 spectateurs à Wembley à Londres pour les demi-finales et la finale. Une nouvelle très rassurante, toutefois, elle émane de l'Agence européenne des médicaments. 2 doses de vaccins anti-Covid semblent protéger contre le très contagieux variant Delta et ce, quel que soit l'un des 4 vaccins approuvés dans l'Union européenne. Efficaces les vaccins, mais pas encore assez utilisés. Le débat sur la vaccination des soignants dans les établissements pour personnes âgées reviendra à la rentrée. En attendant, plusieurs collectifs de résidents, familles et professionnels alertent. Les mesures de restriction sont allégées partout, sauf dans les EHPAD où le protocole reste très sévère à Lisca Chaner.
Le retour à la vie normale, c'est ce à quoi aspirent les résidents des EHPAD. Pourtant, des restrictions de visite sont toujours en vigueur, déplore Philippe Wender, le président de l'association Citoyennage.
Alors, un des soucis qui revient, c'est tous les gens qui ont eu la chance d'avoir des naissances derrière, petits-enfants surtout, et qu'on n'a pas pu les voir, mais c'est vraiment terrible, quoi.
Dans certains établissements, les visites se font encore sur rendez-vous, uniquement le week-end ou encore par le biais de parloirs équipés de plexiglas.
Il y a encore trop de privation de liberté en EHPAD.
Bernadette Ojardias, vice-présidente du collectif EHPAD Famille 42.
Ce n'est pas normal que des familles soient obligées encore de quémander des heures de visite pour aller voir leurs proches et assistent à leur dégradation.
Difficile de savoir combien d'établissements appliquent encore ces mesures restrictives. Les protocoles varient d'un EHPAD à l'autre et ce, faute de consignes claires du gouvernement, estime Pascal Chanvert, le président de l'association des directeurs au service des personnes âgées.
Des messages passés par des ARS départementales ou régionales disant « Monsieur le directeur, Madame la directrice, n'oubliez pas que c'est vous qui êtes responsable. » Il faut que l'État ait une parole très claire, une parole d'ouverture et une parole à tous ces niveaux.
Une ouverture très attendue, d'autant que 82% des résidents en EHPAD sont complètement vaccinés contre la Covid-19.
Lui faisait encore 18 000 morts en 1972, le fléau des accidents de la route. Ils ont drastiquement chuté en un demi-siècle avec 3 500 morts par an, mais ce chiffre stagne. Et en 10 ans, la France a dégringolé du 7e au 14e rang européen. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
La Cour des comptes plaide dans un rapport rendu aujourd'hui sur une approche plus globale pour mieux faire.
Oui, plus globale, c'est-à-dire pas seulement en mettant des panneaux de signalisation et des radars au bord des routes, méthodes qui ont certes montré leur efficacité, mais il faut, selon la Cour des comptes, remettre aussi plus de forces de l'ordre sur le terrain, au plus près des automobilistes, sur route et en ville, où le rapport pointe une hausse de la mortalité liée aux nouvelles mobilités, les vélos, les trottinettes. Il faut prendre davantage en compte les blessés graves, insiste la Cour, dans l'évaluation des dangers de la route, et pas seulement la mortalité qui peut être un chiffre un peu en trompe-l'œil. Les 3,7 milliards d'euros que la France consacre chaque année à la sécurité routière pourraient être mieux employés pour faire par exemple davantage de pédagogie sur l'alcool et les stupéfiants, pour des incitations financières à la généralisation de dispositifs d'aide à la conduite à bord des véhicules en partenariat public-privé avec les constructeurs, autant de pistes sur lesquelles nos voisins européens ont une longueur d'avance. L'an dernier, la France s'est légèrement repassée au-dessus de la moyenne européenne un nombre de morts sur les routes par million d'habitants.
La ville de Paris gagne son bras de fer juridique contre Airbnb. La plateforme a été condamnée à une amende de plus de 8 millions d'euros. Depuis 2017, elle avait maintenu des annonces de location sans le numéro d'enregistrement obligatoire. Attitude incivique, je cite, face à la pénurie de logements sanctionnée par la justice. Un événement rarissime aujourd'hui, une perquisition au ministère de la Justice. Elle vise directement le garde des Sceaux sur de possibles conflits d'intérêts avec ses anciennes fonctions d'avocat. C'est l'affaire de l'enquête qu'il avait lui-même ordonnée contre des magistrats qui cherchaient à savoir qui avait informé Nicolas Sarkozy qu'il était sur écoute dans une affaire de corruption. Éric Dupond-Moretti se dit serein face à cette procédure. Et puis, une autre enquête ouverte fin juin, là, contre 4 géants de l'habillement, Uniqlo, Skechers, le groupe de Zara et celui qui détient Sandro, entre autres, poursuivi pour recel de crimes contre l'humanité, accusé par des ONG d'avoir profité du travail forcé des Ouïghours pour s'enrichir.
La politique en France, Anaïs.
Et les pions se mettent en place sur l'échiquier de la présidentielle. Chez les écologistes, Yannick Jadot, candidat désormais à la primaire. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, donne rendez-vous à la rentrée. Pour Jean-Luc Mélenchon, tout cela, c'est le signe qu'une union à gauche n'est pas possible. Lui plaide pour une union populaire, Laurence Perron.
L'union de la gauche a vécu et Jean-Luc Mélenchon n'est pas mécontente de lui remettre un coup de pelle.
Cette sottise puérile et infantile de ceux qui, manquant d'expérience, se sont laissés attraper dans tous les pièges qu'on leur tendait, est maintenant fini. Ça n'a pas empêché qu'on rabâche, que j'étais contre, que je voulais être tout seul, que ragnagné, ragnagna.
Le chef des Insoumis s'en prend vivement, toutefois, à la multiplication des candidatures.
Ils viennent témoigner pour des sigles, des logos. Donc, nous opposons la stratégie de l'Union populaire.
L'Union populaire, c'est la nouvelle stratégie, non plus le populisme, mais l'idée pensée par les économistes Amable et Palombarini, selon laquelle l'électorat est divisé en deux blocs, un bloc bourgeois et un bloc populaire.
Il y a des blocs qui sont là. Vous verrez que la droite existe dans ce pays et qu'il n'est pas au pouvoir de M. Macron de la capter. Et que si elle est capable de se réorganiser, ce qui semble qu'elle soit capable de faire. Et c'est une autre chose pour tous ceux qui ont un minimum de sens des responsabilités dans l'ancienne famille historique de la gauche que de ne pas s'abaisser à accepter le clivage qui est proposé, qui consiste à dire diabolisons les insoumis. Comment vous gagnez sans les insoumis?
Sur sa nouvelle affiche de campagne, il a troqué sa veste à col Mao pour un costume classique.
Moi j'aime mieux l'autre.
Une affiche bleu-blanc-rouge à son nom, plus de filles rouges et des filles, la mer partout et à l'horizon une côte. Il dit que c'est sa terre promise.
La France salue ce soir l'accord fiscal international le plus important conclu depuis un siècle. L'OCDE s'est mise d'accord sur un taux d'imposition mondial des entreprises d'au moins 15%. Bruno Le Maire en attend entre 5 et 10 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. On savait que Jeff Bezos ne s'envolerait pas seul dans l'espace le 20 juillet. Son frère fait partie de ce premier vol de tourisme. Le patron de Blue Origin annonce aussi qu'une femme de 82 ans décollera avec eux. Wally Funk, dans les années 60, elle avait passé les tests de la NASA pour les astronautes. Elle sera la personne la plus âgée à voyager dans l'espace. Elle est bien plus terre à terre et avec l'accent chantant, les premiers visiteurs de ce qu'on appelle déjà le Puy du Fou provençal ont découvert aujourd'hui le Rocher du Mistral, un parc à thème historique entre Aix-en-Provence et Arles. Tout le folklore provençal entre reconstitutions historiques et guinguettes, Mathilde Vinceneux, qui déjà fait polémique.
C'est un entrepreneur passionné de patrimoine qui est à l'origine du projet 30 millions d'euros dépensés pour aménager le site et restaurer le château.
Vous êtes dans le plus vieux château de Provence. Les premières traces remontent au XIe siècle.
Frédéric Delanouvelle, directeur général adjoint du Rocher Mistral.
Vous voyez toutes les marques des infiltrations. Ce château, il y a encore 8 mois, il prenait l'eau de partout.
Dans les pièces, des enfants admirent les comédiens en costume d'époque.
Je suis jamais allée dans des châteaux, mais c'était trop bien.
Mais pour les riverains, c'est une autre histoire. Xavier Domalin dénonce l'artificialisation des terres, les nuisances sonores et des travaux non autorisés sur un parking et sur un potager.
Vous avez là un premier refus, c'est un refus d'une déclaration préalable de travaux. Et vous avez là un deuxième document qui est un refus du permis de construire. On est très clairement en train de créer une zone de surtourisme.
France Nature Environnement s'inquiète aussi pour une espèce de chauve-souris protégée, Alain Goléa.
Il y a 3 salles dans lesquelles se trouvait cette colonie de murins et oreillers chancrés, sur lesquelles il y a eu donc des travaux sans autorisation dans les souterrains.
Le parc assure avoir conservé une salle pour la colonie. La FNE a déposé une plainte et un référé. Une audience est prévue mi-juillet au tribunal d'Aix-en-Provence. La Barbin, Mathilde Vince de France Inter.
Et on passe au Tour de France. Sur sa lancée, Marc Cavendish, au sprint, il remporte l'étape comme à Fougères, là où il avait déjà brillé aujourd'hui à Châteauroux. 32e victoire d'étape pour le Britannique Fanny Lechevestrier et Van Der Poel toujours en jaune.
Oui, et quelle victoire hein, encore pour le CAV hein, qui la ligne d'arrivée franchie s'appelle casque avec les mains, l'air de ne pas y croire. Il gagne là où son histoire victorieuse avec le Tour a commencé il y a 13 ans à Châteauroux. Il signe son 2e succès, vous l'avez dit, sur ce Tour de France 2021. Alors qu'on le rappelle, hein, le Britannique n'avait plus gagné sur la grande boucle depuis 2016. Incroyable renaissance. Il s'impose en force devant Jasper Philipsen et Nasser Bouhanni. Nouveau podium hein, pour le Français, c'est à noter. Cavendish n'est plus qu'à 2 succès du record d'Eddy Merckx, 34 victoires sur le Tour. Au général, pas de changement, Mathieu Van Der Poel conserve hein, donc son maillot jaune, il a passé une journée tranquille. Demain pourrait être beaucoup plus chahuté pour lui avec 250 km entre Vierzon et Le Creusot.
Et oui, c'est la fine, c'est plus une étape de transition comme aujourd'hui, hein. C'est une longue et difficile étape. Merci Fanny Lechevestrier avec Hélène Langlois à Châteauroux.
Eh bien, merci Anaïs Feugat.